Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Tome 2. Chapitre 6. Comprenant certains détails d'une visite de condoléances qui pouvait bien avoir des suites importantes. Smic, au moment où il s'y attend le moins, fait la rencontre d'un vieil ami qui l'invite à venir chez lui et l'emmène sans vouloir accepter d'excuses. Catherine Nickleby ne se doutait pas le moins du monde des démonstrations amoureuses de leur voisin, pas plus que de leurs résultats sur le cœur inflammable de sa maman. Elle jouissait donc sans trouble d'un commencement de calme et de bonheur auquel elle était restée depuis longtemps étrangère, et qu'elle ne connaissait plus même par occasion rapide et passagère. Elle vivait désormais sous le même toit que son frère bien-aimé, après avoir été séparée de lui d'une manière si soudaine et si cruelle. Son âme respirait plus librement, affranchie des persécutions insolentes dont le souvenir seul faisait rougir sa joue et palpiter son cœur. Enfin, c'était pour elle toute une métamorphose. Elle avait repris son humour, sa gaieté primitive, ses pas avaient retrouvé leur élasticité légère, la fraîcheur était revenue colorer ses joues flétries. Catherine Nickleby n'avait jamais été aussi belle. C'était aussi l'opinion de Miss Lacravey, opinion fondée sur une foule d'observations et de réflexions auxquelles elle se livra sans relâche, une fois que le cottage eut été, comme elle le disait dans son langage figuré, ramonné de la tête aux pieds, depuis la cheminée sur les toits jusqu'au décrotoir à la porte, et que l'activité de la petite femme put enfin se porter de la maison aux gens qui l'habitaient. Ce que je vous déclare, que je n'ai pas encore pu faire depuis que je suis venue ici pour la première fois, disait-elle, car je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'autre chose que de marteaux, de clous, de tournevis et de vrilles, faisant le métier de serrurier depuis le matin jusqu'au soir. « C'est que, » reprit Catherine en souriant, « vous ne gardez jamais une pensée pour vous-même. Ma foi, ma chère enfant, je serais une grande dupe de penser à moi, quand il y a tant d'autres sujets plus agréables auxquels je puis penser. À propos, tenez, il y a encore quelqu'un à qui je pensais. Savez-vous que je remarque un grand changement dans un membre de cette famille ?
Un changement très extraordinaire.
« Qui donc ?» demanda Catherine d'un air inquiet. « Ce n'est toujours pas... »«
Non, ma chère, non, ce n'est pas votre frère !»
répondit Miss Lacravey, allant au-devant de sa question. « Celui-là, c'est toujours la même perfection de bonté, de tendresse, d'esprit, assaisonné d'un peu de je ne veux pas dire quoi dans cette occasion. Lui, il n'a pas changé depuis que je l'ai vu pour la première fois.
Non !» Mais c'est Smic,
comme il veut qu'on l'appelle, ce pauvre garçon, car il ne veut pas entendre parler de mettre un monsieur devant son nom.
Eh bien, Smic a terriblement changé en peu de temps.
Comment cela ? Demanda Catherine.
Je ne vois rien dans sa santé.
Non, dans sa santé, c'est possible, dit Miss Lacravey avec un moment de réflexion, quoique ce soit une existence bien frêle et bien usée. Et que je lui trouve une mine qui me navrerait le cœur si je la voyais chez vous.
Mais non, je ne voulais pas parler de sa santé.
Eh bien alors, je ne sais pas trop, continua Miss Lacravey. Mais je l'ai observé, et il m'a fait venir bien des fois les larmes aux yeux. Vous me direz que ce n'est pas très difficile, parce que je pleure d'un rien. Mais c'est égal, je crois qu'ici ce n'est pas malheureusement sans cause et sans raison. Il me semble que, depuis qu'il est ici, il y a eu quelques motifs particuliers de reconnaître de plus en plus la faiblesse de son intelligence. Il y est plus sensible quand il s'aperçoit qu'il divague de temps en temps et qu'il ne peut pas comprendre les choses les plus simples. Il en éprouve plus de chagrin. Je l'ai bien regardé quand vous n'étiez pas là, ma chère. Assis, à part, d'un air si triste qu'il fait peine à voir. Puis après, quand il se levait pour sortir, il était dans un tel état de mélancolie et d'abattement que je ne puis vous dire toute la peine que j'en ressentais.
Il n'y a pas plus de 3 semaines, c'était un garçon sans souci, remuant d'une gaieté bruyante, enfin, à ce qu'il semblait, heureux tout le long du jour. Aujourd'hui, ce n'est plus rien de tout cela. C'est toujours une nature dévouée, innocente, fidèle, aimante. Mais pour le reste, plus rien. « Espérons que cela passera, » dit Catherine. « Le pauvre garçon. » «
Je l'espère comme vous, » répliqua sa petite amie avec une gravité qui ne lui était pas ordinaire.
« Espérons-le pour lui, ce pauvre malheureux. » « Cependant, » ajouta-t-elle en reprenant le ton d'enjouement babillard qui ne la quittait guère, « je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. »
« Et vous avez peut-être trouvé que c'était un peu long, ce que j'avais à vous dire. Peut-être que j'avais tort de le dire. » « Je n'en serais pas du tout étonnée. En attendant, je m'en vais l'égayer ce soir, car il me sert de cavalier tout du long du chemin jusqu'au strand. Je m'en vais parler, sans lui laisser de repos, jusqu'à ce que je trouve un moyen de le faire rire de quelque chose. Ainsi, plus tôt il va s'en aller, mieux cela vaudra pour lui. Et moi aussi, car pendant que je suis là, ma domestique pourrait bien faire la coquette avec quelque beau monsieur qui me dévalisera ma maison. » Quoique, à dire vrai, je ne vois pas trop ce qu'il aurait à emporter, le malheureux, après mes tables et quelques chaises, excepté pourtant mes miniatures. Encore, il faudrait que ce fût un voleur bien habile pour en tirer grand profit. Car moi, je suis bien obligé de le reconnaître, parce que c'est l'exacte vérité, je n'en retire rien du tout.
Tout en parlant, Miss La Creevy enveloppa sa figure dans un chapeau collant, et sa personne dans un grand châle qu'elle serra étroitement autour de sa taille, un moment, au moyen d'une grande épingle. Puis elle déclara que l'omnibus pourrait passer quand il voudrait, qu'elle était maintenant toute prête. Mais il fallait encore prendre congé de Madame Nickleby, et ce n'était pas peu de chose. La bonne dame n'était pas au bout de ses réminiscences plus ou moins applicables à la circonstance, que déjà l'omnibus était à la porte. Voilà Miss La Creevy tout en l'air. Plus elle se trouble, moins elle avance. Ainsi, en voulant secrètement donner la pièce à la bonne derrière la porte, elle tire de son sac une masse de gros sous qui roule dans tous les coins du corridor et lui prennent un temps considérable à les ramasser. Naturellement, il fallut encore embrasser Catherine et Madame Nickleby avant le départ, chercher le petit panier et le paquet de papier gris pour les emporter. Pendant ce temps-là, l'omnibus, comme disait Miss La Creevy, jurait à faire trembler. Enfin, il semblait de s'en aller. Alors Miss La Creevy part comme un trait, faisant avec la plus grande volubilité des excuses à tous les voyageurs, leur assurant qu'elle était bien fâchée de les avoir fait attendre, pendant qu'elle cherche des yeux une place commode. Le conducteur pousse Smic dedans et donne au cocher le signal du départ. Et le large véhicule s'ébranle et roule, en faisant autant de bruit pour le moins qu'une douzaine de haquets. Laissons-le poursuivre son voyage, au gré du conducteur que nous venons de voir si important, et qui maintenant se balance avec grâce sur son petit marchepied par derrière, reprenant son cigare odoriférant. Laissons-le s'arrêter, repartir, galoper ou trottiner, selon que cet estimable fonctionnaire le juge bon et convenable. L'occasion nous tente d'aller chercher des nouvelles de Sir Mulberry Hawk et de nous informer si, depuis que nous l'avons quitté, il s'est bien remis du mal qu'il s'était fait en tombant violemment de son cabriolet lors de sa querelle avec le fougueux Nicolas. Le voilà avec une côte brisée, le corps tout meurtri, la figure endommagée par des cicatrices toutes fraîches, pâle encore et épuisée par la douleur et par la fièvre, étendue sur le dos, dans le lit qui le retient, par un ordre du médecin prisonnier pour quelques semaines encore. Dans la pièce voisine, Monsieur Pic et Monsieur Pluck sont à table, occupés à boire copieusement, variant de temps en temps les murmures monotones de leur conversation, par un éclat de rire à moitié étouffé, pendant que le jeune lord, le seul membre de leur société qui ne fût pas tout à fait perdu sans remède, car c'était dans le fond un cœur honnête, est assis à côté de son mentor, un cigare à la bouche, et se dispose à lui lire, à la lueur d'une lampe, les passages et les nouvelles qu'il choisit dans le journal, les plus propres, à ce qu'il lui semble, à intéresser ou amuser son malade. « Maudit chien !» dit Sir Mulberry en se retournant avec impatience la tête du côté de la pièce voisine. « Rien ne peut donc faire taire leur infernable gosier !» Monsieur Pic et Monsieur Pluck, en entendant cette exclamation, s'arrêtent immédiatement en se faisant l'un à l'autre un signe d'intelligence et se versant une rasade en dédommagement du silence qui leur était imposé. « Morbleu !» murmura-t-il entre ses dents, en se tordant de colère dans son lit. « Ce matelas n'est-il pas assez dur ? Cette chambre assez triste ? Et mes douleurs assez cuisantes, sans qu'ils me mettent encore à la torture ? Quelle heure est-il ? »
« 8h30, répondit son ami.
« Tenez, approchez la table et reprenons les cartes, dit Sir Mulberry. « Encore un piquet, allons !»
Il était curieux de le voir au milieu de ses souffrances, incapable de se remuer, si ce n'est pour tourner la tête de droite ou de gauche, observant tous les mouvements de son jeune ami à chaque carte jouée. Quelle ardeur et quel intérêt il apportait au jeu! Et cependant, quelle adresse et quel sang-froid il montrait en même temps! Il en avait 20 fois plus qu'il n'en fallait pour un tel adversaire, incapable de lui tenir tête, même quand la fortune le favorisait de quelques cartes heureuses. Sir Mulberry gagna toutes les parties, et quand son camarade, lassé de perdre, jeta les cartes sur la table et refusa de continuer, il dégagea du lit et lança sur la table son bras amaigri pour faire rafle des enjeux avec un juron victorieux et ce même rire, si rauque, quoique moins vigoureux aujourd'hui, qui retentissait il y a quelques mois dans la salle à manger de Ralph Nickleby. Son domestique entre pour lui annoncer que M. Ralph Nickleby est en bas et vient savoir comment il va ce soir.
« Mieux !» répondit-il impatienté.
« Monsieur Nickleby demande, monsieur... »«
Mieux, vous dis-je »
réplique Sir Mulberry, frappant de sa main sur la table. Le domestique hésite un moment, puis se décide à dire que M. Nickleby demande la permission de voir Sir Mulberry Hawk si cela ne le gêne pas.
« Cela me gêne. Je ne peux pas le voir, je ne peux voir personne !» lui dit son maître avec plus d'énergie encore. « Vous le savez bien, imbécile !»«
Pardon, monsieur, » répondit le domestique, « mais M. Nickleby a fait tant d'insistance. »
Le fait est que Ralph Nickleby avait graissé la patte du domestique qui, dans l'espérance d'être encore bien payé en pareille occasion, voulait gagner son argent. Aussi tenait-il la porte entrouverte sans sortir, et n'avait-il pas l'air pressé de s'en aller.
« Vous a-t-il dit qu'il eût à me parler d'affaires ?»
demanda Sir Mulberry après un moment de réflexion.
« Il a seulement demandé à vous voir en particulier, monsieur. Voilà tout ce qu'a dit monsieur Nickleby. »«
Vous allez lui dire de monter !» « Tenez, auparavant !» lui cria Sir Mulberry en se passant la main sur ses traits altérés. « Prenez cette lampe et posez-la sur son pied derrière. Reculez cette table et placez une chaise là. Encore un peu plus loin, c'est bien !»
Le domestique exécuta cet ordre en serviteur intelligent qui en comprenait les motifs et sortit. Lord Frederick Verisopht passa dans une chambre à côté en disant qu'il allait revenir dans un moment et ferma derrière lui les deux battants de la porte. Puis, on entendit un pas discret dans l'escalier, on vit Ralph Nickleby, le chapeau à la main, se glisser modestement dans la chambre, le corps incliné, dans l'attitude d'un profond respect, et les yeux fixés sur la figure de son honorable client.
« Eh bien, Nickleby !»
lui dit Sir Mulberry en lui montrant la chaise qu'il avait préparée à côté de son lit et lui faisant de la main un signe d'insouciance affectée.
« Il m'est arrivé un accident désagréable, vous savez. »«
Je le sais, » répondit Ralph toujours regardant fixement. « Désagréable, en effet.
Je ne vous aurais pas reconnu, sœur Mulberry. Tiens, tiens, c'est très désagréable. »
Les manières de Ralph étaient pleines d'une profonde humilité et d'un respect étudié. Le ton adouci de sa voix était bien celui qu'une attention délicate pour un malade devait dicter à l'étranger qui lui rendait visite. Mais pendant que sœur Mulberry lui tournait le dos, la figure de Ralph faisait avec ses manières polies un étrange contraste. Debout, dans son attitude habituelle, regardant avec calme l'homme étendu devant lui comme une masse inerte, tous ceux de ses traits qui n'étaient pas cachés à l'ombre de ses sourcils renfrognés portaient la trace d'un sourire moqueur. « Asseyez-vous, » dit sœur Mulberry, tournant la tête de son côté, comme par un effort violent. « Je suis donc bien extraordinaire que vous vous teniez là, debout, à me regarder comme une histoire ?» Au moment où il se tourna, Ralph recula d'un pas ou deux, comme ne pouvant s'empêcher de témoigner ainsi son profond étonnement, tout en cherchant à se contraindre, et s'assit, avec un air de confusion, joué à s'y méprendre.
« Sœur Mulberry, dit-il, je suis venu en bas tous les jours, et souvent deux fois par jour, dans les commencements, savoir de vos nouvelles. Ce soir, en raison de notre vieille connaissance et des affaires antérieures que nous avons faites ensemble, à la satisfaction, j'espère, de tous les deux, je n'ai pu résister au désir de demander à vous voir. Est-ce que vous avez souffert beaucoup ? Continua-t-il en se penchant vers le malade et laissant toujours éclater sur sa figure son infernal sourire, pendant que l'autre tenait les yeux fermés.
« Oui, plus que je n'aurais voulu, mais moins peut-être que ne l'auraient voulu certaines rosses de notre connaissance qui y jouent gros avec nous. Je vous en réponds, » répondit sœur Mulberry en tirant sa couverture d'une main toujours agitée.
Ralph haussa les épaules, comme pour se plaindre d'un ton d'irritation violente dont ses paroles lui étaient adressées, car il y avait dans son langage, comme dans ses manières, une aisance froide et désespérante qui agaçait tellement le malade qu'il avait peine à le supporter.
« Et qu'y a-t-il, demanda sœur Mulberry, dans ces affaires que nous avons faites ensemble qui vous amène ici ce soir ?»«
Rien, répliqua Ralph. Il y a bien quelques billets de Milord qui ont besoin d'être renouvelés, mais nous attendrons que vous soyez sur pied. J'étais venu, continua-t-il d'un ton plus bas, mais en appuyant plus encore sur chaque mot. J'étais venu vous dire tout le regret que j'avais, que ce fut un de mes parents, un parent que j'ai renié, il est vrai, qui vous a infligé une punition si...
Punition ? Interrompit sœur Mulberry.
« Je sais qu'elle est sévère, »
dit Ralph, ayant l'air de se méprendre sur le sens de l'interruption de sœur Mulberry.
« Et je n'en étais que plus impatient de venir vous dire que je renie ce vagabond, que je ne le reconnais plus pour un des miens, que je l'abandonne au châtiment mérité qu'il pourra recevoir de vous ou de tout autre. Tordez-lui le cou, si vous voulez, ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. »
« Ah, ce conte que l'on m'a fait ici a donc déjà couru le monde, à ce que je vois !»
demanda sœur Mulberry, serrant les poings et grinçant des dents.
« Oh, on ne parle pas d'autre chose, » répliqua Ralph. « Il n'y a pas de club, pas de cercle qui n'en ait retenti. On a même dit, » continua-t-il, regardant l'autre en face, « qu'on en avait fait une bonne chanson. » Je ne l'ai pas entendu chanter moi-même, je ne m'occupe guère de tout cela, mais on m'a dit qu'on l'avait fait imprimer, soi-disant pour la faire circuler sous le manteau. Maintenant elle court les rues, comme vous pensez.
Ils en ont menti, dit sœur Mulberry. Je vous dis qu'il n'y a rien de vrai dans tout cela. La jument a eu peur, voilà tout.
Eh bien, eux, ils disent que c'est lui qui lui a fait peur, repartit Ralph, toujours aussi calme, aussi impassible.
Il y en a bien qui vont dire qu'il vous a fait peur aussi.
Pour cela, par exemple, je suis bien sûr que ce n'est pas vrai, et je l'ai dit hardiment, partout et tous les jours. Je ne suis pas un casseur d'assiettes, mais je ne veux pas souffrir qu'on dise cela de vous.
Aussitôt que Sir Mulberry put trouver, dans sa colère, quelques mots à lier ensemble, Ralph se pencha vers lui, porta la main à l'oreille pour mieux entendre, conservant toujours dans ses traits son calme stéréotypé, comme si chaque ligne de sa physionomie rigide avait été coulée en bronze.
« Attendez seulement que je puisse sortir de ce maudit lit !» dit le patient, qui dans son emportement frappait sur sa jambe cassée sans s'en apercevoir. « Et je veux tirer de lui une vengeance dont il sera parlé !»« Oui, nom de... je me vengerai !» Il a pu, favorisé par le hasard, me marquer à la face pour une quinzaine de jours. Mais moi, je lui laisserai des marques qui le suivront jusqu'au tombeau. Je veux lui couper le nez et les oreilles, lui donner le fouet, l'estropier pour la vie, et ce n'est pas tout. À son nez et à sa barbe, je veux forcer ce bel échantillon de chasteté, cette fine fleur de pruderie, sa bégueule de sœur. Ah!
Soit que Ralph lui-même ne pût entendre ces dernières menaces sans que son sang, glacé, s'en fût ému et porta à ses joues le témoignage visible de son mécontentement, soit que Sir Mulberry se rappela à temps que tout fripon, tout usurier qu'il était dans l'âme, le vieux Nickleby devait avoir quelquefois, dans sa première enfance, enlacé dans ses bras le cou d'un frère, le père de Catherine. Il n'alla pas plus loin, se contenta de menacer du poing son ennemi absent et de confirmer par un serment horrible ses promesses de vengeance. Ralph, pendant ce temps, considérait d'un œil perçant le malade en délire.
« Il est sûr, dit-il, rompant enfin le silence, que c'est bien humiliant pour un homme renommé comme le lion, le roué, le héros de tous les rendez-vous à la mode, d'avoir reçu cette leçon d'un petit polisson. »
Sir Mulberry lui darda un regard furieux, mais ne l'atteignit pas. Ralph avait les yeux baissés et sa figure ne trahissait aucune expression particulière. Il avait seulement l'air pensif.
« Un enfant, un méchant galopin, continua Ralph, contre un homme qui n'aurait qu'à se laisser tomber sur lui pour l'écraser de son poids. Sans parler de son habileté à... Je ne me trompe pas, continua-t-il en relevant les yeux. Vous étiez passé maître à la boxe autrefois, n'est-il pas vrai ?
Le malade fit un geste d'impatience que Ralph aima mieux prendre pour un signe d'assentiment.
Ah, je savais bien que je ne me trompais pas. C'était avant que nous eussions fait connaissance, mais c'est égal, j'en étais bien sûr. Lui, il est actif et souple, je suppose. Mais qu'est-ce que cela auprès de tous vos avantages ? C'est la chance. Ces chiens de bandits-là ont toujours la chance pour eux.
Eh bien, qu'ils en fassent provision pour notre prochaine rencontre, dit Sir Mulberry, car je le trouverai quand il se sauverait au bout du monde.
« Oh !» reprit Ralph vivement. « Il n'a pas envie de se sauver. Il vous attend, monsieur, tranquillement, à Londres même, au grand soleil, faisant blanc de son épée et regardant dans les rues si vous n'y êtes pas. »
En disant cela, Ralph se rembrunissait et cédant enfin un transport de haine en se représentant Nicolas triomphant.
« Si nous vivions seulement, dit-il, dans un pays où on put faire de ces choses-là sans danger, que je donnerais de l'argent de bon cœur pour lui faire poignarder l'âme et le jeter au chenil pour y être mangé par des chiens. »
Ralph avait à peine donné à son client étonné cet échantillon de son excellent cœur et de son affection de famille, lorsque Lord Verisopht se montra au moment où il prenait son chapeau pour s'en aller. Que diable avez-vous donc ? Dit-il. Vous et Nickleby à faire tout ce tapage ? Je n'ai jamais rien entendu de pareil.
Croc, 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 baou, baou, waou !
De quoi donc s'agit-il ?
C'est Sir Mulberry, Milord, qui a eu un accès de colère, répondit Ralph, les yeux tournés vers le malade.
Il ne s'agit toujours pas d'argent, j'espère. Les affaires ne vont pas plus mal, n'est-ce pas, Nickleby ?
Non, Milord, non. Sur cet article-là, Sir Mulberry et moi, nous sommes toujours d'accord. Mais c'est qu'il a eu occasion de se rappeler les détails de...
Ralph n'eut pas besoin d'en dire davantage. Sir Mulberry ne lui en laissa pas le temps. Il s'empara lui-même du sujet et se mit à vociférer contre Nicolas des menaces et des sentiments presque aussi furieux que tout à l'heure. Ralph, qui avait un talent d'observation peu ordinaire, fut surpris de voir pendant cette tirade l'accueil qu'elle parut recevoir de Lord Verisopht. Il avait commencé par se friser les moustaches de l'air le plus dégagé et le plus indifférent. Mais à mesure que Sir Mulberry se donnait carrière, ses traits s'altérèrent, et il surprit bien plus encore son observateur lorsqu'après cette philippique, le jeune lord, sans dissimuler son mécontentement, le pria sèchement de ne plus jamais reparler devant lui de cette affaire. « Rappelez-vous de cela, Hawke !» ajouta-t-il avec une énergie qui ne lui était pas ordinaire. « Jamais je ne seconderai, jamais je ne permettrai, si je puis l'empêcher, une lâche attaque contre ce jeune garçon. »«
Comment ? Lâche ! » s'écria son ami.
« Oui, » répéta l'autre en le regardant en face. « Si vous aviez commencé par lui dire votre nom et lui remettre votre carte, quitte à trouver après, dans sa position ou sa personne, des excuses pour ne point vous battre avec lui, ce n'était pas encore bien magnifique. » Mais ma parole d'honneur, c'était déjà assez vilain comme cela. Mais de la façon que cela s'est passé, vous avez eu tort. Moi aussi j'ai eu tort de ne pas intervenir et je m'en repens. Ce qui vous est arrivé après était purement accidentel. Ce n'était point prémédité. Et c'est de votre faute plus que de la sienne. Il n'en portera donc pas la peine, croyez-moi. Cela ne doit pas être et cela ne sera pas.
En répétant avec insistance cette déclaration, le jeune lord tourna les talons, mais avant de partir, il revint sur ses pas pour dire avec plus de véhémence encore
« Je suis convaincu maintenant, oui, sur mon honneur, j'en suis convaincu. La sœur est une jeune personne aussi modeste et aussi vertueuse qu'elle est belle. Et quant au frère, tout ce que je peux en dire, c'est qu'il s'est conduit en bon frère, comme un homme de cœur et d'honneur. « Je voudrais seulement de toute mon âme pouvoir en dire autant de nous tous. »«
Est-ce bien là votre élève ?» demanda tranquillement Nickleby. « Ou quelque innocent tout frais sorti des mains d'un curé de village ?»«
Ce sont de ces accès qui prennent de temps en temps au blanc-bec. Il a besoin que je le forme, »
répliqua Sir Mulberry Hawke en se mordant les lèvres et lui montrant la porte.
« Laissez-moi faire !»
Ralph échangea un coup d'œil familier avec sa vieille connaissance, car cette surprise inquiétante avait tout à coup renoué leur intimité, et il reprit le chemin de sa maison d'un pas lent et d'un air soucieux. Pendant cette entrevue, et longtemps même dans le dénouement, l'omnibus s'était soulagé de Miss La Creevy et de son garde du corps. Ils étaient maintenant arrivés à sa porte. Là, la petite artiste ne voulut, pour rien au monde, laisser retourner Smic sans l'avoir réconforté au préalable, en buvant un petit coup de quelque liquide généreux et sans y tremper un biscuit. Et comme Smic ne montra aucune répugnance à boire un petit coup de ce liquide généreux, en y trempant un biscuit, comme au contraire il n'était pas fâché de se donner des jambes pour revenir à Bow, il s'arrêta un peu plus longtemps qu'il ne voulait d'abord. Et il y avait déjà une demi-heure que la brume était venue quand il se remit en route pour retourner à la maison. Il n'y avait pas de danger qu'il perdît son chemin, car c'était toujours tout droit. Il n'y avait guère de jour qu'il n'y était passé, en accompagnant Nicolas le soir et le matin. Miss La Creevy et son cavalier se séparèrent donc en parfaite confiance, se donnèrent une bonne poignée de main, et Smic partit
chargé de 1000 compliments encore pour Madame et Mademoiselle Nickleby. Arrivé au pied de Ludgate Hill, il prit un détour pour satisfaire sa curiosité. Il voulait voir Newgate en passant. Après avoir considéré avec beaucoup de soin et de terreur, pendant quelques minutes, les sombres murailles de la prison, il revint sur ses pas et se mit à marcher d'un bon pas à travers la cité. Pourtant, il s'arrêtait de temps en temps à regarder à la montre de quelques boutiques dont l'étalage le frappait plus que l'autre, puis faisait encore un petit bout de chemin, puis s'arrêtait encore, et ainsi de suite, comme font tous les provinciaux. Il y avait déjà longtemps qu'il regardait à la fenêtre d'un bijoutier, regrettant de ne pouvoir emporter quelques jolies bagatelles pour en faire cadeau à la maison et se figurant le plaisir qu'il aurait à l'offrir quand toutes les horloges sonnèrent 8h15. Réveillé par leur carillon, il se remit à courir et franchissait justement le coin d'une rue de traverse quand il se sentit heurté d'un coup violent et si soudain qu'il fut obligé de se retenir à un poteau de lanterne pour s'empêcher de tomber. Au même instant, un petit drôle s'empara de sa jambe et fit vibrer à ses oreilles un cri perçant.
« À moi, papa ! C'est lui ! Hurrah !»
Smic ne connaissait que trop bien cette petite voix. Il abaissa ses yeux désespérés sur l'individu à laquelle elle appartenait et, frissonnant des pieds à la tête, n'eut que le temps de se retourner pour se retrouver en face de Monsieur Squeers, qu'il avait accroché au collet avec le bec de son parapluie et se pendait à l'autre bout de toutes ses forces pour retenir sa victime. Le cri d'allégresse venait de Maître Wackford, qui, sans faire attention à ses coups de pied et à sa résistance, ne lâchait pas plus sa jambe que le bulldog ne lâche sa proie. Il lui suffit d'un coup d'œil pour lui révéler tout son malheur, paralyser ses moyens et le rendre incapable de proférer un son. « Quelle chance !» cria Monsieur Squeers, tirant petit à petit son parapluie, comme on tire la corde d'un puits, sans le décrocher, avant que sa main fût arrivée jusqu'au collet et pût le tenir ferme. « Quelle délicieuse chance ! Wackford, mon garçon, appelle un de ces fiacres !»«
Un fiacre, papa ?»
cria le petit Wackford.
« Oui, monsieur, un fiacre !»
Et ses yeux se repaissaient de l'effroi empreint sur la figure de Smic.
« Tant pis pour ma bourse, il faut que nous le mettions en voiture. »«
Qu'est-ce qu'il a fait ?» demanda un manœuvre qui passait là, chargé d'une hottée de briques, et que Squeers avait appelé à son aide, ainsi que son camarade quand il avait lancé si adroitement son parapluie.
« Tout !» répondit monsieur Squeers, regardant fixement son ancien élève, avec une sorte de tremblement de joie. « Tout ! Il s'est sauvé, monsieur. Il a pris part à des attaques de buveurs de sang contre son maître. Il n'y a pas de crime qu'il n'ait pas commis. Ah, mon Dieu, quelle délicieuse chance !»
L'homme regardait Smic pour entendre sa défense, mais le pauvre diable avait entièrement perdu le peu de moyens qu'il avait. Le fiacre arrive. Maître Wackford y monte le premier. Squeers lui pousse sa prise et monte derrière ses talons, lève les glaces. Le cocher s'assied sur son siège et va son petit train, laissant là les deux maçons jaser comme bon leur semble sur l'incident avec une marchande de pommes et un petit gamin qui sortait d'une école du soir. Seul témoin de la scène qui venait de se passer. Monsieur Squeers s'assit sur la banquette vis-à-vis de l'infortuné Smic, et les mains, fièrement plantées sur ses genoux, le regarda pendant au moins 5 minutes dans le blanc des yeux avant de se remettre de son extase. Après quoi il poussa un grand cri et se mit à claquer à droite et à gauche la figure de son élève plusieurs fois consécutive.
« Quoi ? Ce n'est pas un songe !» dit Squeers. « C'est lui en chair et en os. Oui, vraiment, je le reconnais au toucher !»
Et après avoir renouvelé ses expériences concluantes, M. Squeers, pour varier ses plaisirs, lui administra quelques coups de poing sur l'oreille, poussant à chaque fois un éclat de rire plus long et plus bruyant.
« Votre maman, mon garçon !» dit Squeers à son fils, « est dans le cas d'en crever de joie dans sa peau quand elle va savoir !»«
Je crois bien, papa !» répliqua Maître Squeers.
« Quand on pense, » dit Squeers, « que nous tournons, nous, vous et moi, le coin d'une rue, et que nous nous trouvons nez à nez avec lui juste au bon moment !» Puis encore que je l'accroche du premier coup avec mon parapluie, aussi juste et aussi ferme que si je l'avais accroché avec un grappin.
Et moi, dites donc, père, ne l'ai-je pas gentiment empoigné par la jambe ?
Dit le petit garçon.
C'est vrai, mon garçon, vous vous êtes bien conduit,
dit Monsieur Squeers, lui donnant des petites tapes d'amitié sur la tête.
Aussi, je vous donnerai pour la peine la plus jolie veste à la hussarde et le plus beau gilet qu'apporteront les premiers pensionnaires. Entendez-vous bien ? Continuez comme vous avez commencé. Faites tout ce que vous voyez faire à votre père. Et quand vous mourrez, vous irez tout de go au paradis sans qu'on vous arrête à faire des questions à la porte.
Après cette promesse encourageante, Monsieur Squeers se remit à taper tout doucement la tête de son fils et à taper plus fort celle de Smic, en lui demandant d'un ton gouailleur comment il se trouvait de ce régime-là.
« Laissez-moi retourner à la maison !» répliqua Smic, se retournant furieux.
« Pour cela, vous pouvez en être sûr que vous allez y retourner. Ne vous inquiétez pas, vous y retournerez à la maison, je vous en réponds. Et bientôt !» Vous allez vous retrouver au paisible village de Dudboys en Yorkshire avant 8 jours, mon jeune ami. Et si jamais vous en sortez, je vous donnerai la permission de n'y plus revenir. Où sont les habits avec lesquels vous vous êtes sauvé, ingrat de voleur que vous êtes ? Dit Monsieur Squeers d'une voix sévère.
Smic jeta les yeux sur l'habillement propre et décent qu'il devait aux soins de Nicolas et se tordit les mains de désespoir.
« Savez-vous qu'une fois hors de Old Ballet, j'aurai le droit de vous pendre ?»«
Pour vous être enfui avec des effets qui m'appartiennent ?» dit Squeers.
« Savez-vous que c'est un cas de potence ?»«
Je ne sais même pas si ce n'est pas un cas d'anatomie. »«
De s'esquiver d'une maison habillée avec une valeur de 125 francs. »« Hein ? Savez-vous ça ?»«
À combien estimez-vous les habits que vous m'avez emportés ?»
« Savez-vous que cette botte à Willington que vous aviez à un pied coûtait 35 francs la paire quand il y en avait deux ? Et que le soulier que vous aviez à l'autre pied valait 9 francs 35 ? Quand vous êtes bien heureux en retombant entre mes mains d'être venu tout droit au grand bazar de la miséricorde, remerciez votre étoile de m'avoir choisi tout exprès pour vous servir cet article. Je vous en donnerai comme il faut. »
Il n'y avait pas besoin d'être dans la confidence de Monsieur Squeers pour voir que cet article de miséricorde dont il se disait si bien pourvu, il en manquait absolument. Et si quelqu'un pouvait en douter encore, il n'aurait pas tardé à reconnaître son erreur en le voyant faire succéder à cette promesse les coups de pointe qu'il portait en pleine poitrine à Smic avec le fer de son parapluie. Accompagné d'une grêle d'estocade en tierce et en quarte sur la tête et sur les épaules, avec les côtes du même instrument.
Parbleu, dit Squeers.
Il s'arrêta pour se reposer la main.
Je n'avais jamais rossé des lèvres en fiacre. Ce n'est pas bien commode, mais la nouveauté m'en plaît.
Pauvre Smic. Il parait les coups de son mieux. Et finit par se recoquiller dans un coin de la voiture, la tête dans ses mains et les coudes sur les genoux. Il était stupéfié, abasourdi, et ne songeait plus à faire quelque effort pour essayer d'échapper à la toute-puissance de Squeers. Maintenant qu'il n'avait plus là d'amis pour lui parler et le conseiller, qu'il n'y avait songé pendant les longues et tristes années de son martyre en Yorkshire avant l'arrivée de Nicolas. Il croyait que la course ne finirait jamais, que de ruses enfilaient les unes après les autres. Et cependant, il trottait toujours. Enfin, M. Squeers commença à passer la tête à chaque minute par la portière pour donner une foule d'indications successives au cocher. Après avoir traversé, non sans difficulté, quelques rues isolées nouvellement construites, comme le montrait assez l'aspect des maisons et le mauvais état des chemins, M. Squeers se pendit tout à coup au cordon de toute sa force et lui cria « Arrêtez !»« A-t-on jamais vu tirer le bras d'un homme comme cela ?» dit le cocher avec colère. « C'est ici, la seconde de ces quatre petites maisons à un étage, avec des volets verts. Il y a sur la porte une plaque de cuivre avec le nom de Snowley. « Ne pouviez-vous pas dire cela sans m'arracher le bras ?» demanda le cocher. « Non, brailla M. Squeers. Si vous dites un mot de plus, je vais vous faire faire un procès-verbal pour avoir un carreau cassé. Arrêtez !» Le cocher, docile aux instructions de son bourgeois, arrêta à la porte de M. Snowley. M. Snowley, on le rappelle, était ce tartuffe à la face luisante qui avait confié aux soins paternels de M. Squeers les quatre enfants de sa femme, comme nous l'avons raconté au quatrième épisode du premier tome de cette histoire. Sa maison se trouvait sur les extrêmes limites de quelques nouveaux établissements contigus à Somerstown. Et M. Squeers y avait loué un logement pour quelques jours, parce qu'il avait affaire à Londres un séjour un peu plus long que d'habitude, et que d'ailleurs la tête de Sarrasin, ayant appris à connaître à ses dépens l'appétit de maître Wackford, avait refusé de le traiter à des conditions plus favorables qu'une grande personne. « Nous voilà !» dit Squeers, bousculant Smick devant lui, dans la petite salle où M. Snowley et sa femme étaient en train de manger un homard pour leur souper. « Voilà le vagabond, le traître, le rebelle, le monstre d'ingratitude !»« Quoi ? L'élève qui s'est sauvé ?» cria Snowley, laissant de saisissement retomber ses mains sur la table et le couteau et la fourchette en l'air, et écarquillant ses grands yeux. « Lui-même !» dit Squeers, mettant son poing sous le nez de Smick, le retirant et recommençant plusieurs fois la même menace avec la physionomie la plus féroce. « S'il n'y avait pas là une dame, je lui... Mais patience, il ne perdra rien. » Et M. Squeers se mit à raconter où, quand et comment il avait rattrapé son fugitif. « Il est clair que c'est un coup de la Providence !» dit M. Snowley, baissant les yeux avec un air d'humilité et élevant sa fourchette avec un morceau de homard au bout vers le plafond pour remercier le ciel. « Il n'y a pas de doute, c'est la Providence qui se déclare contre lui !» répliqua Squeers en se grattant le nez. Cela ne pouvait être autrement, comme de juste. Il n'y a pas à s'y méprendre. « Les mauvais cœurs et les mauvaises actions sont toujours punis, monsieur, » dit M. Snowley. « Il n'y a pas d'exemple du contraire, » répliqua Squeers tout en tirant de son portefeuille un petit paquet de lettres pour voir s'il n'en avait pas perdu dans sa bagarre. Quand il fut tranquille de ce côté, « Vous voyez bien, Madame Snowley, » dit-il, « j'ai été le bienfaiteur de ce garçon-là. » Je l'ai nourri, instruit, vêtu, blanchi. J'ai été l'ami de ce garçon-là, son ami universel, classique, commercial, mathématique, philosophique et trigonométrique. Mon fils, Wackford, mon propre fils, a été pour lui un frère. Madame Squeers a été pour lui une mère, une grand-mère, une tante. Ah, je pourrais même dire un oncle. Enfin, tout! Elle n'a jamais élevé personne dans du coton, excepté vos deux charmants, vos deux délicieux petits-enfants, comme elle a élevé ce garçon-là dans du coton. Eh bien, quelle en est la récompense? Je lui ai prodigué le lait de notre commune tendresse. Mais maintenant, je sens, quand je le regarde, que ce lait-là a tourné et s'aigri sur mon cœur. C'est bien possible, monsieur, dit Madame Snowley, c'est bien possible. « Mais où a-t-il été tout ce temps-là » demanda Snowley. « Serait-il resté avec... »« Ah, monsieur !» dit Squeers en l'interrompant et se tournant vers Smick.
Êtes-vous resté avec ce démon de Nickleby, monsieur ?»
Mais ni question, ni taloche ne purent arracher là-dessus un mot de réponse à Smic. Il avait pris en lui-même la résolution de périr, plutôt dans l'affreuse prison où il allait retourner, que de prononcer une syllabe qui pût compromettre son premier, son unique ami. Il avait eu le temps de se rappeler les recommandations que lui avait faites Nicolas en quittant le Yorkshire, de garder un profond secret sur sa vie passée. Il avait une idée vague et confuse que son bienfaiteur pouvait bien avoir commis un crime en l'emmenant, un crime terrible, qu'il exposerait à un châtiment redoutable s'il était découvert. Et cette crainte avait aussi contribué à le mettre dans l'état de terreur stupide où il était retombé. Telles étaient les pensées, si on peut donner ce nom aux visions imparfaites qui erraient sans suite dans son cerveau affaibli, qui vinrent assaillir l'esprit de Smic et le rendirent également sourd à l'éloquence persuasive de Squeers ou à ses procédés d'intimidation. Voyant tous ses efforts inutiles, M. Squeers le conduisit dans une petite chambre en haut sur le derrière pour y passer la nuit. Puis, après avoir pris la précaution de lui faire quitter ses souliers, son gilet et son habit, et de fermer par-dessus lui la porte en dehors, dans le cas peu vraisemblable où il retrouverait l'énergie de tenter encore une évasion, le digne gentleman l'abandonna à ses réflexions. Ses réflexions, personne ne peut dire ce qu'elles étaient. Ce fut le désespoir de cette pauvre créature quand il retomba dans ses pensées uniques, dans le souvenir récent de sa dernière demeure, des amis si chers, des visages si doux qu'il y laissait. Il entrevoyait tous ses rêves dans une espèce d'engourdissement douloureux, sommeil lourd et pénible d'une intelligence qui n'avait pu se développer sous le régime de cruauté dont il avait été victime dans sa première enfance. Combien il faut pour cela d'années de souffrance et de misère, sans rayon d'espérance? Comme il faut que ces cordes du cœur qui vibrent une prompte réponse à la douceur et à l'affection se soient rouillées ou brisées dans leur secrète attache, sans avoir même à renvoyer l'écho languissant de quelques vieux chants de bonheur ou d'amour. Comme il faut qu'il ait été sombre le jour, le triste jour, où cette lueur à peine apparue dans l'esprit s'est ensevelie à tout jamais dans les ombres d'un long crépuscule, d'une nuit plus sombre et plus triste encore. Pourtant, même alors, il aurait pu se réveiller peut-être au son de certaines voix aimées, mais elles ne pouvaient pénétrer jusqu'à lui. Aussi, quand il se glissa à tâtons dans son lit, il était redevenu déjà la même créature insouciante, découragée, flétrie, que Nicolas avait trouvée et transformée en arrivant à Dodboys Hall.